Bon, on va commencer. Le sujet de ma présentation, j'ai fini par l'appeler antispécie, la question animale et démocratie. J'ai hésité entre différents titres, c'est aussi parce que c'est un domaine où j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème assez profond. Un problème qu'on pourrait dire qui est entre la question animale ou l'antispécisme ou le végétarisme et la démocratie, ou encore ce que j'appelle le modèle républicain laïque, faute d'avoir un terme qui soit, dont je suis parfaitement convaincu qu'il soit propre. Disons, un problème de conflit entre ce que nous, ou disons une partie d'entre nous, les personnes qui veulent remettre en cause le statut moral des animaux dans la société, qui veulent remettre en cause la consommation des animaux. Je pense qu'il y a un problème de conflit entre cette volonté-là qui est celle d'une partie d'entre nous et les bases de cette société, un conflit qui amène à ce que les végétariens se retrouvent souvent traités de fascistes ou même de nazis, ce qui est assez paradoxal, ce qui nous frappe comme paradoxal, parce que notre but est que personne ne soit mangé, ni les humains ni les animaux, que personne ne soit tué, ne soit maltraité arbitrairement. Nous avons le sentiment d'une certaine façon que notre objectif est exactement le contraire du fascisme, et pourtant de façon très très fréquente, on nous traite de fascistes ou on nous compare avec les fascistes d'une manière ou d'une autre. Et je pense que d'une certaine façon, il y a un fond de, je dirais pas un fond de vérité, mais peut-être dans un certain sens, il y a un fond de logique derrière ça, dans le sens que je pense qu'il y a un problème de compatibilité entre ce que nous proposons et ce que j'appelle le modèle républicain laïque. Ma conclusion étant que c'est plutôt le modèle républicain laïque qui est à peut-être pas à mettre à la poubelle, dans le sens qu'il y a beaucoup d'éléments dans le modèle républicain laïque qui sont certainement très positifs à conserver, des idées d'égalité, des idées généreuses, mais qu'il y a quelque chose de profondément problématique dans ce modèle. Donc, j'aurais voulu pouvoir faire quelque chose d'assez systématique, mais la vérité, c'est que je n'ai pas réussi à organiser mes idées de façon assez claire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour comprendre un petit peu le fond de ce que c'est ce modèle républicain laïque, son histoire, peut-être aussi ses origines, dont je pense qu'elles sont assez liées à une certaine logique chrétienne. Et à développer un petit peu quelles peuvent être les possibilités d'alternatives par rapport à ça. Ce que je présente ici, je le précise, c'est mon opinion sur les choses, mon opinion personnelle, comme toute opinion qui est une opinion personnelle, ce qui ne veut justement pas dire que ça soit quelque chose de l'ordre des goûts et des couleurs, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. C'est que je pense qu'il y a aussi dans ce modèle républicain laïque, il y a un problème avec le statut justement des opinions. C'est ce que je développerai dans le deuxième point, prendre les idées au sérieux. Donc d'abord sur le problème tel qu'il se pose, hein, les végétariens sont-ils des fascistes? Le premier raisonnement qui amène à ce qu'on nous traite de fascistes, c'est quelque chose par rapport à la liberté, cet adage « chacun mange ce qu'il veut ». Que manger, le choix alimentaire, c'est de l'ordre du privé. C'est une certaine catégorie que ce modèle, notre modèle de pacte social, le modèle de républicain laïque, nous donne. Il y a des choses privées et il y a des choses publiques. La nourriture est de l'ordre du privé, du choix privé, libre et non soumis à la loi. Les végétariens, eux, veulent interdire la viande, donc les végétariens sont des fascistes, sont comparables à des sectes qui veulent imposer à chacun leur opinion, qui veulent imposer dans le domaine public des choses qui, d'après cette conception des choses, sont d'ordre privé. Bon. Et alors j'ai pris quelque chose, un dialogue, dialogue si on peut dire, qui est sur une liste de discussion internet récemment, où il y a eu quelques orages, qui est la liste Novivisection. Alors donc c'est des extraits de messages successifs qui sont apparus sur cette liste de discussion, mais le dialogue pratiquement tel qu'il s'est déroulé est là. Donc Alain qui dit « Le principe de manger ou non de la viande est le problème des antispécistes et pas celui du groupe anti-vivisection. » Donc Alain c'est un militant anti-vivisection mais qui mange des animaux et qui voulait écarter cette discussion-là. Donc Sarah qui est une militante antispéciste a répondu que le problème de manger de la viande c'est pas le problème des antispécistes, c'est-à-dire que c'est pas un problème d'ordre privé qui serait seulement le nôtre, mais c'est le problème des animaux, c'est-à-dire c'est un problème que... Ça devrait être le même problème pour Alain que pour nous. Les animaux existent indépendamment du point de vue qu'on a dessus, ils souffrent indépendamment du fait qu'on est antispéciste ou pas, donc c'est un problème en soi, c'est pas simplement un problème privé des antispécistes. Et Alain, directement, sans aucune, de façon spontanée, se met à parler de la question de la prédation. Que fais-tu des animaux carnivores? Tu veux les empêcher de se tuer pour nourrir? Tout ça en majuscule pour dire que à quel point ce serait une aberration.
De tuer
pour se nourrir. Sarah qui répond un peu benoîtement, comment ça, t'es un animal carnivore? Et Alain qui répond, Sarah, tu veux interdire la viande? Ok, mais vu que, hélas, les végétariens sont minoritaires, enfin, hélas, c'est un peu bizarre parce que lui mange la viande, mais enfin bon, sont minoritaires en France, il ne reste que le coup d'État. Donc, les antispécistes, les végétariens qui veulent interdire de manger la viande sont des fascistes. Je suis frappé par la spontanéité du raisonnement fait par Alain, c'est-à-dire qu'il comprend spontanément la logique qu'il y a derrière le végétarisme. Le végétarisme n'est pas simplement la volonté soi-même de rester pur, de ne pas manger les animaux, mais de se laver les mains, mais le végétarisme, c'est une critique fondamentale et générale du fait de manger la viande, et si nous voulons ne pas manger les animaux pour que les animaux ne soient pas tués, c'est que logiquement nous appliquons le même raisonnement à tout le monde. Et, voilà. Alors deux autres petits points sur la manière dont fonctionne ce raisonnement qui aboutit au fait que nous serions des fascistes, que nous serions à exclure du pacte social, puisque d'une certaine façon, aujourd'hui, le pacte social est fondé sur un ensemble d'idées, du genre droit de l'homme, etc. Et traiter quelqu'un de fasciste, c'est lui dire, c'est un peu comme l'ostracisme du temps des Grecs, c'est lui dire, tu ne fais plus partie de notre société, tu es banni de la société. Donc, un exemple de clash avec l'existant, c'est-à-dire dans l'existant tel qu'il est aujourd'hui, la vie des animaux ne compte pour rien. Des antispécistes mettent la vie des animaux sur le même plan que la vie des humains. Donc les antispécistes considèrent que la vie des humains ne compte pour rien. C'est un raisonnement qui n'est pas rigoureux dans un certain sens, c'est-à-dire qui pioche une partie de ce que disent les antispécistes et pas la totalité, puisque le but des antispécistes, c'est bien évidemment de dire que la vie des animaux doit compter sur le même plan que la vie des humains, mais bon, c'est un peu significatif aussi du fait que les gens, d'une certaine façon, conçoivent plus facilement que l'on cesse d'accorder une importance à la vie humaine qu'ils n'arrivent à concevoir qu'on en accorde à la vie des animaux. Donc, qu'à la limite, l'antispécisme est plus difficile pour eux à concevoir que le fascisme. Donc, ils nous classent dans le fascisme plutôt que de nous classer dans... que de prendre au sérieux le fait que nous accordons une importance à la vie des animaux. Une autre logique, qui est un petit peu la même, mais vue d'une autre façon, c'est que le pacte social, aujourd'hui, c'est quelque chose où où on voit un mur entre les personnes qui acceptent ce pacte social, la démocratie, le modèle républicain laïque, et les personnes qui sont en dehors et qui sont classiquement les fascistes. Donc, or, le discours des antispécistes, ou à mon avis des végétariens en général, de façon implicite, je prends Isaac Bashevis-Singer qui disait que du point de vue des animaux, tous les humains sont des nazis, c'est-à-dire que si on regarde effectivement, si on se dit, si j'étais ce bœuf qui est en train d'être mené à l'abattoir, qui est en train d'être vendu sur ce marché, qu'on est en train de tâter, qu'on est en train de mettre de côté, de sélectionner, comment est-ce que je regarderais les humains? Bon ben, je pense que le regard qu'on aurait sur les humains est effectivement le même qu'on aurait pu avoir en descendant d'un train de déportation et en étant tâté, mis dans une catégorie ou une autre pour survivre ou ne pas survivre. Donc, les gens perçoivent assez facilement que le végétarisme ou l'antispécisme ou la prise en compte sérieuse des intérêts des animaux implique d'une certaine façon qu'un regard très critique sur les gens qui mangent de la viande. On a eu même dans le dialogue avec les enfants, je veux dire l'autre jour c'était peut-être un petit peu en arrière-plan, le gamin qui demandait qu'est-ce que les végétariens pensent des gens qui mangent de la viande. Qu'ils se sentent jugés, ils se sentent mis dans une catégorie très désagréable et celle qui serait peut-être celle des fascistes. Or, le fondement du modèle républicain laïque, c'est que les fascistes sont hors du pacte social, qu'il ne peut pas y avoir de dialogue avec les fascistes, qu'il y a une distance infinie, qu'il y a un mur, qu'il ne peut pas y avoir de contact. Donc d'une certaine façon, la distance est infinie entre les fascistes et les gens, la majorité des gens, de la même façon que la distance est infinie entre la majorité des gens et les végétariens, en tout cas dans cette façon de concevoir les choses, et par conséquent on ne peut pas coexister dans la même société. Donc parce que les végétariens, on imagine que les végétariens voudraient exclure tous les mangeurs de viande, voudraient les exclure de la même façon qu'on exclut les nazis, et ben ils imaginent que nécessairement il faut exclure les nazis. C'est j'appelle ça une exclusion en miroir. Ça me fait penser un petit peu à la... Pardon ? Oui, qu'il faut exclure les végétariens parce qu'ils pensent qu'il faut exclure les nazis. Je pensais à Hannah Arendt à la fin de Eichmann à Jérusalem, qui justifie la peine de mort appliquée à Eichmann en disant Eichmann a considéré qu'il ne pouvait pas partager le monde avec nous les juifs, donc il est logique que nous les juifs nous l'exécutions et que nous considérions que nous ne pouvons pas partager le monde avec, avec Eichmann, ce qui est un raisonnement qui en toute logique ne tient pas, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que les autres ne pensent pas qu'on puisse partager le monde avec, avec nous, que nous, nous devons en miroir penser l'inverse, quoi. Pardon ?
C'est la même chose, tu voulais dire.
Oui, que nous devons penser la même chose en miroir, c'est-à-dire la symétrie. Et que je pense que nous ne devons pas nier le fait, non pas que nous pensons que les gens qui mangent la viande sont des nazis, mais qu'il y a un rapport qui est semblable, mais je pense aussi qu'il faut remettre en cause cette façon de concevoir le dedans et l'extérieur, cette manière de dire les fascistes doivent être exclus de la société, plutôt que d'essayer de dialoguer de discuter, d'argumenter contre le fascisme. Ce qui est le résultat du point de vue habituel dans notre société, c'est qu'on n'argumente plus contre le fascisme, on considère que le racisme, par exemple, n'est pas une opinion, est un délit. Par conséquent, il n'y a pas besoin de chercher des arguments contre le racisme, et finalement, le racisme, il peut prospérer, puisque personne n'argumente à l'encontre, quoi. On ne dit pas qu'il n'y a pas besoin d'arguments, c'est un délit. Donc, la deuxième partie, c'est une partie un petit peu longue et dont j'ai un petit peu peur qu'on ne voit pas le rapport avec le Schmilblick, mais je pense qu'il y a un rapport quand même. Et je répète, ça correspond à ce que moi je pense, hein, parce qu'on a eu une discussion l'autre jour sur cette question du constructivisme ou sur des idées du genre il n'y a pas de vérité absolue ou des choses comme ça. Là-dessus, j'ai un point de vue qui est assez spécifique, mais en même temps dont j'ai le sentiment que c'est un point de vue qui est celui qui découle tout naturellement de la logique des choses, de la logique de ce que c'est que d'avoir une opinion sur quelque chose. Quand on a une opinion sur quelque chose, le quelque chose sur lequel on a une opinion, c'est un objet qui est extérieur à nous. Je veux dire que c'est pas simplement le fait, comme le fait de dire j'aime bien les fraises. D'autres personnes peuvent ne pas aimer les fraises, mais le goût que j'ai pour les fraises, ça m'est personnel. Mais si je dis il pleut ou il fait beau, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, c'est un discours sur le monde extérieur. Bon, mais je vais développer ça un petit peu là-dedans. Donc là, j'ai mis quelques-unes des opinions, des déclarations que je classe dans ce que j'appelle le relativisme ou le constructivisme. C'est peut-être pas exactement la même chose, je ne saurais pas faire un détail exact de ces deux termes, mais pour moi, c'est des choses, c'est une logique assez semblable. Donc chacun a le droit de penser ce qu'il veut, à chacun son opinion. Ce qui est vrai d'une certaine façon, mais qui n'est pas. Enfin, qui est interprété dans un sens que je pense critiquable, où il n'y a pas de vérité universelle, où tout est relatif, toute vérité est construite. Ça, c'est une formulation un peu plus académique. Alors que je pense qu'en réalité, il n'y a qu'un seul monde, que dans ce monde, les choses dites à propos de ce monde sont vraies ou sont fausses. Ce qui ne signifie pas qu'on puisse forcément connaître cette vérité. Le fait de dire qu'il y a une vérité absolue, ce n'est pas quelque chose qui signifie que ni moi ni qui que ce soit possède forcément cette vérité absolue, mais que simplement que s'il n'y avait pas une vérité extérieure à nous, ça n'aurait pas beaucoup de sens de la chercher. Alors, premièrement, sur cette phrase qui me paraît aberrante, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. La partie qui me paraît aberrante, c'est le dernier mot, ce qu'il veut, parce que ça suppose qu'on pense ce qu'on veut. Moi, personnellement, je pense pas ce qu'on veut. C'est-à-dire, par exemple, je peux essayer, mais je suis incapable en ce moment de penser qu'il pleut. Pourtant, moi, j'aime bien la pluie, mais malheureusement, il fait beau. Et
tu es fasciste.
Je suis. Non, mais j'aime bien aussi quand il fait beau. Mais je veux dire, mettons que j'aime bien la pluie, ce qui est vrai aussi, mais je serais incapable de penser qu'il pleut si en ce moment. Je ne choisis pas ce que je pense. Ce que je pense résulte de la recherche de la vérité. En l'occurrence, c'est pas difficile, il suffit de regarder dehors. Dans d'autres cas, ça peut être beaucoup plus difficile, mais je pars à la recherche de la vérité, et je pense que c'est le processus qui est à la base de la logique de ce qu'est une opinion sur quelque chose. Au départ, on ne sait pas quelle est la vérité, on la recherche, et ensuite, on a trouvé, ou on n'a pas trouvé, ou on a réussi à... Enfin bon, la recherche nous a donné un résultat qui nous satisfait plus ou moins. Mais l'opinion, ce qu'on pense sur l'état du monde, résulte de cette recherche, mais n'est pas simplement un acte de volonté.
Il y a des super belles pages de Simone de Beauvoir, là-dessus, dans le journal d'une jeune fille de Angers, ouais, où elle est hallucinée que ses parents refusent certaines opinions et trouvent ça monstrueux, en fait, qu'on puisse penser ceci ou cela.
Oui, alors que pour elle, c'est simplement le résultat de sa recherche et pas une méchanceté qu'elle a.
C'est pas une méchanceté, c'est pas une volonté non plus.
Oui, simplement c'est qu'elle... Enfin bon, un peu comme Galilée qui sort en disant, ben, pourtant la Terre elle tourne, quoi. Je veux dire, il a vu ça dans le télescope, il a du mal à considérer que... Enfin, à croire le contraire, simplement parce qu'il... Peut-être qu'il avait beaucoup de volonté de croire le contraire de ce qu'il avait vu, mais qu'il... Il n'y arrivait pas. Bon, et simplement là je dis, et je le répéterai, c'est que cette recherche de la vérité présuppose que cette vérité existe extérieurement à nous. Alors j'ai deux contre-exemples, parce que je pense que dans la réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. L'auto-persuasion, ça existe. Et que même il y a des techniques d'auto-persuasion qu'on peut s'appliquer à soi-même. Et un exemple célèbre, c'est Blaise Pascal dans Les Pensées, dans ce passage que beaucoup d'entre vous avez sans doute étudié, qui est le pari de Pascal, où Pascal fait un raisonnement dont il conclut que nous avons intérêt à croire que Dieu existe, et que nous aurions intérêt à croire que Dieu existe, même si la raison nous démontrait qu'il y a une chance sur 1000 que Dieu existe. Le raisonnement étant que croire que Dieu existe, ben, on ne perd pas grand-chose, on perd au maximum quelques plaisirs dans les 50 ans que nous vivons ici, sur la Terre, dans la vie terrestre, et que nous avons peut-être même seulement une chance sur 1000 de gagner un plaisir, une félicité infinie pendant une éternité. Donc même une chance sur 1000 de gagner une chose aussi grande, le pari vaut le coup. Donc nous avons intérêt, simplement par calcul, à croire en l'existence de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de savoir que nous avons intérêt à croire quelque chose pour y croire. Donc il dit, vous dites que vous êtes fait de telle sorte que vous sauriez croire, c'est-à-dire vous heurtez à l'impossibilité que vous avez, vous constatez en vous-même, de croire. Bon, d'abord, constatez cette vérité, donc apprenez au moins votre impuissance à croire, vous n'arrivez pas à le croire, puisque la raison vous y porte, donc la raison c'est le pari qu'il vient de dénoncer juste avant, et que néanmoins vous n'y arrivez pas. Travaillez donc à vous convaincre, non pas par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. Donc il dit grosso modo, adoptez le mode de vie des gens qui se lèvent tôt le matin, qui se donnent 50 coups de fouet au moment où ils se lèvent, qui vont prier à l'église du matin jusqu'au soir sans avoir pris leur petit déjeuner, et qui sortent de l'église complètement en transe, et qui finissent par avoir une vision divine. Enfin bon, là je caricature, je veux pas... Mais, oui, non mais c'était ça. Non mais après j'ai coupé, mais c'était ça, il dit bien le mode de vie des gens, et vous finirez par croire, vous verrez, ça vous viendra. Bon. Un autre exemple un petit peu plus léger, c'est Alice au pays des merveilles. Donc je ne peux pas croire cela, c'était ma Alice, je ne me rappelle pas ce qu'elle était censée croire, mais bon. Vraiment, dit la reine d'un ton de pitié, essaye de nouveau, respire profondément et ferme les yeux. Alice se mit à rire. Inutile d'essayer, répondit-elle. On ne peut pas croire des choses impossibles. Je suppose que tu manques d'entraînement. Quand j'avais ton âge, je m'exerçais à cela une demi-heure par jour. Il m'est arrivé de croire jusqu'à 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. Il y a un autre exemple littéraire que j'ai pas mis, c'est celui de 1984, si vous avez lu le livre, où dans les chambres de torture du régime, dans le ministère de la vérité, on lui présente une main avec 5 doigts, on lui dit « il faut que tu arrives à croire qu'il y a là 4 doigts ». Et à la fin, il arrive, après tous les lavages de cerveau, à croire qu'il y a seulement 4 doigts. Et le roman est en grande partie basé sur sur le fait du totalitarisme qui arrive à nous faire croire des choses, à la fois des choses contradictoires, des choses que nous ne croyons pas. Bon, donc ces deux contre-exemples pour montrer ce que je dis là est complexe, qu'il y aurait à comprendre comment nous arrivons en fait à vouloir croire des choses, mais que la logique de base de la croyance, dont je pense qu'il est important de retenir, c'est le fait que que croire n'est pas un acte volontaire. Je pense que c'est un petit peu comme, par exemple, la digestion n'est pas un acte volontaire, ou les battements du cœur, on ne peut pas, par l'acte de sa volonté, rendre ses battements du cœur plus rapides, sauf qu'on peut y arriver quand même, par exemple, si on fait de l'exercice physique. On fait de l'exercice physique, et en faisant de l'exercice physique, on peut faire que son cœur batte plus rapidement. Mais ce n'est pas un acte direct de la volonté sur les battements du cœur. Donc la conclusion, c'est qu'on ne pense pas ce qu'on veut, et donc à la limite, la liberté d'opinion est un concept qui n'a pas de sens en soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de droit à propos de ce qui n'est pas volontaire. Aussi, on ne peut pas être coupable à propos, on ne peut pas être coupable de ses opinions, puisque croire quelque chose n'est pas volontaire. Au maximum, la loi peut édicter quelque chose à propos de la liberté d'expression, puisqu'effectivement la loi peut dire vous avez le droit d'exprimer telle opinion ou vous n'avez pas le droit d'exprimer telle opinion, ça c'est un acte volontaire, mais on ne peut pas parler de liberté d'opinion à proprement parler. La loi de fait en France, je crois, elle déclare que c'est l'expression, par exemple, du racisme qui est un délit. Elle ne déclare pas que le racisme est un délit. Or, souvent, on trouve cette phrase-là sous la forme « Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. » Donc, voilà. Donc, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Hein, donc, que la recherche de la vérité présuppose que la vérité existe, que la vérité n'est pas constituée par le résultat de la recherche, c'est-à-dire que si je cherche la vérité, on ne peut pas dire que ce que je cherche est par définition le résultat de ce que j'aurais trouvé, parce que sinon je n'ai qu'à prendre la première idée qui me passe par la tête, me mettre à y croire, et dans ce cas-là ça deviendra la vérité et donc je serai content. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là. Pardon ? Oui, la vérité n'est pas créée par le fait d'y croire. Si la vérité était créée par le fait d'y croire, ça n'aurait pas de sens de chercher la vérité.
Ce sont les croyants, par exemple.
Les
croyants. Ils fondent le caractère de vérité de ce qu'ils croient sur le fait qu'ils y croient. C'est donc une super fréquence à comme raisonnement.
Non, je pense qu'ils le disent, mais qu'en général, ils le fondent sur peut-être un sentiment intime. Et l'idée, par exemple, que Dieu n'a pas pu mettre en eux ce sentiment intime de croyance, si Dieu n'existe pas, ou bon, un petit peu un raisonnement.
Je peux parler en tant que croyant.
Oui.
Non, mais je me base sur.
Oui, c'est-à-dire que tu estimes
que
c'est pas. Oui, c'est-à-dire que c'est pas simplement le fait que tu y crois. Tu penses que Dieu existe et que Dieu existe pour tout le monde. C'est pas simplement parce que tu y crois que Dieu existe. Voilà. C'est quelque chose qui peut peut-être paraître évident à propos des choses comme le temps qu'il fait, qui est souvent nié peut-être à propos des choses de l'ordre de la religion, qui est très fréquemment nié à propos des questions éthiques. Je vais y revenir. En général, très très souvent, enfin, c'est un point de vue très très courant dans la philosophie morale de dire qu'il n'y a pas de vérité, que les vérités morales, les vérités éthiques ne sont pas des vérités absolues au même sens que les vérités factuelles. Ce sont bien courant qui dit que les vérités éthiques sont simplement l'expression de préférences personnelles. Je pense que c'est indéfendable pour les mêmes raisons que le fait qu'il fasse beau ou qu'il ne fasse pas beau. Donc voilà, les croyances donc, portent sur le monde, portent sur un monde qui est commun à tous. Alors, à partir de là, il y a le fait que je pense que les vérités sont universelles. Par contre, il est clair que des personnes différentes n'ont pas la même opinion sur la vérité, sur ce qui est la vérité. Par exemple, si Claude pense que la piscine ferme le mardi et Dominique pense qu'elle ferme le jeudi, ben, en supposant. Pardon. Non, elle ferme le mardi. Mais en fait, ni Dominique, ni moi, n'allons à la piscine aujourd'hui, donc finalement, c'est pas très important. Nous avons un désaccord sur un fait, nous pensons quelque chose à propos du monde qui est différent, mais dans la réalité, je veux dire, soit la piscine ferme le mardi, soit elle ferme le jeudi, enfin, en supposant qu'elle ferme un seul jour. Non, mais je veux dire, j'essaye de prendre des exemples qui sont pas toujours parfaitement embêtants. Bon, elle pourrait fermer les deux jours, mais je suppose qu'on peut en être dans un pays où il est interdit aux piscines de fermer deux jours par semaine. Donc, il n'y a qu'un seul jour de fermeture. Alors, donc, ce que je viens de dire par rapport aux différentes sortes de croyances, moi, je suis toujours éberlué par le fait qu'on fasse des catégories de croyances, qu'on fasse des compartiments. Comme s'il y avait des mondes différents. Je pense qu'il y a des approches différentes du monde. Je pense par exemple qu'il y a des approches, une approche scientifique du monde, qui est une approche qui est constituée sociologiquement. Je dirais, il y a des gens qui vont à l'école, qui apprennent les sciences, qui apprennent certaines méthodes qui existent et qui les appliquent et qui obtiennent certaines vérités du monde. Mais c'est quand même des vérités du même monde. Les vérités scientifiques sur la composition du plastique, par exemple, sur la mécanique quantique qui fait que le plastique il se tient, enfin la chimie du plastique, c'est les mêmes vérités scientifiques, c'est les vérités sur le même monde qui fait que les chaises sur lesquelles vous êtes assis ne s'écroulent pas. Et je veux dire, ce sont des choses qui parlent des mêmes objets, même si les discours sur ces objets sont formulés d'une manière différente et ont un point de vue différent. Le terme point de vue est assez significatif là-dedans, c'est-à-dire que littéralement parler de point de vue différent, c'est dire il y a un même objet regardé sous des angles différents. Parfois on abuse de ce terme point de vue comme si ça recouvrait toute différence d'opinion. Par exemple, on dit, il y en a un, Monsieur Le Pen, est-ce que les immigrés, il faut les expulser? Oui, il faut les expulser. Et puis, monsieur je ne sais pas qui, non, il ne faut pas les expulser. Bon, ce n'est pas deux points de vue différents, ce sont deux opinions différentes sur la même chose. Je veux dire, elles ne sont pas compatibles, ce ne sont pas simplement le même objet. Il y a une réelle contradiction entre ces choses-là. L'utilisation du terme point de vue, c'est d'une certaine façon une manière d'adoucir, c'est une sorte d'euphémisme pour adoucir le conflit qu'il y a entre des gens qui pensent pensent des choses réellement différentes. Bon, donc, en général, classiquement, on distingue les vérités factuelles, qui seraient des vérités qu'on peut démontrer, des vérités qui seraient communes à tout le monde, des vérités qui portent sur des faits, c'est-à-dire par exemple il fait beau, ou les chaises sont de telle ou telle matière, ou je ne sais pas, il y a 9 planètes autour du système solaire, des choses comme ça. Pardon ? 10. Oui, ou 10, oui, enfin bon. On dit aussi des vérités descriptives, et des vérités éthiques ou morales, ou prescriptives, on dit aussi, qui disent ce que nous devons faire. Et cette distinction est très classique, on dit qu'il ne peut pas y avoir de rapport entre la constatation de l'état du monde, la description, et ce que nous devons faire. Il y a là un vrai problème, mais je pense que la logique de ce qu'est une croyance, de ce qu'est une opinion, implique que les vérités éthiques doivent être considérées comme des vérités au même sens que les vérités factuelles. Bon, j'ai essayé de défendre ça dans un article assez long dans les cahiers antispécistes. Je ne vais pas revenir dessus, mais il me semble qu'il est impossible d'avoir une pensée cohérente autrement. Sinon, les vérités éthiques seraient simplement l'expression de préférences personnelles, et ce n'est pas comme ça qu'elles se formulent. Je veux dire, moi, je peux... Par exemple, pour prendre un exemple, par rapport à l'avortement, je suis pour la liberté de l'avortement. Si j'étais contre la liberté de l'avortement, si je pensais que l'avortement était un crime, ça serait une pensée qui serait très désagréable, parce que ça impliquerait qu'il y a beaucoup de crimes qui se commettent tous les jours. Ça ne serait pas l'expression de ma préférence. Je veux dire, je préférerais penser le contraire. Mais de fait, je serais arrivé à cette conclusion-là, et donc je voudrais qu'elle soit partagée par tout le monde, je voudrais que tout le monde arrive à conclure, à cette même partager cette même vérité que j'aurais trouvée, que j'aurais pensé trouver. Et donc, ça n'a pas de sens de dire que c'est simplement l'expression de ma préférence personnelle. Dire ça, c'est une façon, ça permet un consensus plus facile, peut-être, mais ça n'exprime pas du tout la réalité de ce que je pense. De la même façon que par rapport aux animaux, je suis pour l'interdiction de la consommation des animaux, je préférerais que non, ma vie serait beaucoup plus facile si je pensais que les animaux ne souffrent pas ou que ça n'a aucune importance. Ce n'est pas simplement l'expression d'une préférence personnelle que j'aurais à ce sujet-là. Je veux dire, je lutte en plus pour que les animaux cessent d'être mangés un jour où très probablement je ne serai plus là pour le voir. Quel sens ça de parler de préférence personnelle, quoi. je pourrais fermer les yeux sur les boucheries, ça serait beaucoup plus facile. J'aime bien prendre cet exemple avec l'avortement, parce que autant je me sens pas du tout d'accord avec le raisonnement qui mène à l'idée d'interdiction de l'avortement, c'est-à-dire que je suis pour la liberté d'avortement, autant je trouve important de voir qu'il y a une certaine logique là-dedans et que nous ne devons pas mépriser les personnes qui sont contre l'avortement, voire les personnes qui cherchent à interdire l'avortement. Donc, quelques exemples de désaccords religieux et éthiques pour montrer le religieux est en général assez intermédiaire entre l'éthique et le factuel. Donc, le fait qu'il est vrai ou faux que Dieu existe, moi je pense que c'est faux. Encore que la question de la définition de ce qu'on appelle Dieu, ça pourrait être discuté, mais de façon générale, ce qu'on appelle Dieu, je pense qu'il n'existe pas. D'autres personnes pensent qu'il existe. Je ne pense pas que ça puisse être relégué à une pure question privée. De la même façon, il est vrai ou faux que la Terre a 5 milliards d'années, c'est-à-dire que les créationnistes aux États-Unis qui font des campagnes pour imposer l'enseignement du créationnisme, ou en tout cas comme alternative dans les écoles, je trouve qu'ils obéissent à une certaine logique. Il me paraît tout à fait logique qu'à partir du moment où on pense que le darwinisme est faux, qu'on essaye de le faire enseigner, ou au moins comme alternative. En même temps, moi je pense qu'ils ont tout à fait tort sur le plan factuel. Et je m'oppose à l'enseignement du créationnisme, ou en tout cas je pense que ça ne devrait certainement pas être prédominant dans les écoles, mais je comprends très bien qu'ils ont une certaine logique par rapport à ça. Une vérité éthique, je pense qu'il est vrai ou faux que tous les humains sont égaux. Je pense dans le modèle qu'on a habituellement, on le relègue à une espèce de conventionnalisme, qu'on a décrété que tous les humains sont égaux, mais je pense que c'est vrai ou que c'est faux, et qu'il y a des arguments pour montrer que les humains sont égaux, encore dans un certain sens, c'est-à-dire je pense qu'ils sont égaux moralement, pas forcément au niveau de toutes leurs capacités. Il est vrai ou faux que l'avortement est un crime, il est vrai ou faux que manger les animaux est un crime, etc. Enfin, c'est... À chaque fois, je dis il est vrai ou faux, ça ne signifie pas que je nie qu'il puisse y avoir des nuances dans chacun de ces cas où on puisse critiquer la formulation, mais simplement c'est pour dire que ce ne sont pas des questions relatives, ce ne sont pas des questions simplement de goût ou des couleurs ou de choix du parfum d'un yaourt. Alors là, j'arrive à ce que j'appelle une métavérité. J'ai beaucoup de... Ce préfixe méta, il est apparu il y a quelques années, il s'est diffusé, on l'applique à toutes les sauces. Là, je l'applique pour, d'une certaine façon, pour le critiquer. C'est-à-dire méta, ça veut dire quelque chose qui, d'une certaine façon, serait coifferait toutes les vérités, serait une vérité des vérités, par exemple. Ou un peu comme dans le sens métaphysique, qui serait une physique de la physique, qui serait un point de vue, un discours sur la physique, sans être de la physique elle-même. Enfin, on parle aussi de mathématiques, de... Donc, je pense qu'il n'y a pas de métavérité. Et quand les gens disent il n'y a pas de vérité absolue, ils sont en train de proposer la phrase qu'ils viennent de dire comme vérité absolue. Ils sont en train de dire, moi je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, je vais essayer de t'en convaincre, tu dois convenir qu'il n'y a pas de vérité absolue, sinon tu es un fasciste, tu veux imposer tes idées à tout le monde. Et souvent il y a une certaine virulence dans cette volonté d'imposer l'idée qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il n'applique pas cette logique de il n'y a pas de vérité absolue à la phrase même, parce qu'en fait il la considère comme une méta-vérité, comme une vérité au-dessus des vérités. Or moi je pense qu'il n'y a pas de logique à cela, c'est-à-dire que dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est une opinion parmi d'autres, qui à mon avis est fausse, en particulier parce qu'elle est auto-contradictoire. Et je pense que c'est assez c'est lié à la question de ce que j'appelle le modèle républicain laïque, dans ce sens que le modèle républicain laïque veut imposer une sorte de méta-opinion, qui sont la démocratie, les droits de l'homme, un certain nombre de choses comme ça, qui sont de l'ordre des bases que tout le monde devrait accepter, qui ne sont pas de l'ordre de l'opinion, qui sont une sorte de socle que tout le monde devrait accepter et qu'il est interdit de critiquer. Les personnes qui le critiquent ont dit « ce n'est pas une opinion, c'est un délit ». qui cherche à établir ce niveau-là, et je pense que ce niveau-là, il est indéfendable, que ce n'est pas possible de... Enfin, il est auto-contradictoire. Un dernier point, c'est sur la question des différences d'opinion, des conflits et d'hostilité. Très souvent, les différences d'opinion sont vues comme automatiquement une source de conflit, et les conflits sont vus comme automatiquement une source d'hostilité. On a déjà parlé du fait qu'on n'est pas que la croyance n'est pas un muscle volontaire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est méchant qu'on croit une chose ou parce qu'on est de mauvaise volonté. Donc le fait de croire des choses différentes peut correspondre à simplement des expériences de vie différentes ou à des simplement d'avoir constaté des choses différentes. Là, j'ai noté David Vincent, là, je ne sais pas si ça rappelle des choses à certaines personnes, c'est les envahisseurs. Bon, c'est un thème classique dans beaucoup de romans, qui est quelqu'un qui a vu les extraterrestres, par exemple, ou qui a vu un événement extraordinaire, ou qui a entendu, écouté à une porte, et qui a entendu une conversation de personnes qui projettent d'assassiner le roi. Il essaye de convaincre le roi, mais il n'arrive pas à le convaincre. Enfin bon. Donc simplement une expérience personnelle qu'on a eue de quelque chose, et qui est incommunicable, parce que David Vincent, donc dans Les Envahisseurs, essaye de convaincre le monde entier que les envahisseurs sont parmi nous, que c'est terrible et tout ça, et tout le monde lui dit, mais t'es complètement fou, quoi. Alors que lui, il a vu arriver les envahisseurs, enfin je sais pas exactement ce qu'il a vu, mais il les a vus, et donc c'est une expérience personnelle qui est de l'ordre de l'incommunicabilité. En tout cas, on peut pas... la crédibilité de ce qu'on a vécu soi-même n'est pas communicable. C'est quelque chose qui existe dans les romans, mais c'est quelque chose qui existe dans la vie réelle, je pense aussi par rapport à l'expérience religieuse, c'est-à-dire que les personnes qui ont eu une expérience religieuse sont convaincues par cette expérience religieuse, alors que d'autres personnes pensent simplement qu'elles ont eu un phénomène psychologique un peu bizarre. D'autres personnes, dont moi-même, pensent que c'est de l'ordre de l'hallucination, d'un phénomène psychologique, mais je veux dire, elles ont vu ça et elles essayent de convaincre. Bon, c'est le phénomène aussi des prophètes, hein, qui ont vu ou croient avoir vu, à mon avis, une communication de Dieu ou quelque chose comme ça, qui ont du mal à se faire croire. Mais ça n'implique pas cette différence d'opinion. D'abord, n'implique pas qu'il y ait. N'implique pas nécessairement qu'il y ait un conflit. Je disais par rapport à Dominique tout à l'heure que Dominique, il pense que la piscine ferme le jeudi. Moi, je pense que c'est le mardi, mais ni Dominique ni moi n'avons envie d'aller à la piscine, donc on s'en fiche complètement. Il n'y a aucun conflit à ce propos. Chacun d'entre vous pensait beaucoup de choses, dont moi je pense le contraire à propos de tout et n'importe quoi. Il n'y a aucun conflit à ce propos entre ni moi, ni vous, ni entre chacun d'entre vous, quoi. Les conflits impliquent, les différences d'opinion impliquent des conflits. Uniquement si ces différences d'opinion impliquent des actes contradictoires, si Claude et Dominique veulent aller à la piscine, mais par exemple Dominique veut aller à la piscine aujourd'hui, et que moi j'essaye de convaincre Dominique, mais non, elle est fermée aujourd'hui, parce que moi je sais qu'elle est fermée le mardi, en tout cas je crois savoir qu'elle est fermée le mardi, et je veux épargner à Dominique le fait d'aller à la piscine et de se fatiguer d'aller à la piscine. Donc ce conflit... il existe dans le sens qu'on va discuter, peut-être même à la fin je vais même ligoter Dominique pour l'empêcher de perdre son après-midi. Non mais bon, dans ce cas-là non, mais je veux dire dans un cas où, par exemple, un autre exemple où nous serions tous les deux sur un bateau naufragé, moi je suis convaincu que l'île est au nord et qu'il faut absolument ramer vers le nord. Dominique pense absolument que c'est au sud. Bon, moi je suis tout à fait convaincu que c'est au nord. Ben, je veux dire, pour le bien de Dominique et de moi-même, je vais ligoter Dominique et je vais ramer vers le nord. Peut-être qu'à la fin, je vais constater que c'est Dominique qui avait raison, mais je veux dire que au départ, j'ai pas le choix. Si je pense réellement que c'est au nord, ça implique un conflit, dans le sens qu'il va y avoir un clash dans les actes, mais ça n'implique pas une hostilité. Ce que je veux dire par hostilité, c'est que ça n'implique pas de considérer que Dominique c'est un imbécile, que c'est un salaud. Dans le cas de David Vincent, il pense pas que tous les gens sont des imbéciles, simplement il constate qu'ils n'ont pas vu ce qu'il a vu. Il peut même penser que effectivement ce qu'il a vu est incroyable, comprendre très bien que lui, dans la position des autres, ne le croirait pas. Mais voilà, il y a, y a un problème et que... Donc voilà, donc le conflit n'implique pas l'hostilité. Je pense que c'est très important dans le sens que par rapport à la viande, nous avons un conflit, nous, les personnes d'entre nous qui voudrions interdire la viande, avons un conflit avec la totalité de la société. Ça n'implique pas que nous ayons une hostilité envers l'ensemble de la société, alors que j'ai le sentiment que le modèle de pensée dans lequel nous vivons implique que nous avons à partir du moment où nous avons un conflit, que nécessairement nous avons un grand mépris pour les autres, que nous avons une hostilité, que nous voudrions... Donc conflit n'implique pas hostilité. Ce que je viens de dire avec les exemples, que par exemple je suis souvent frappé par l'hostilité que les gens qui sont pour la liberté d'avortement ont envers les personnes qui sont par exemple les commandos anti-avortement. Les commandos anti-avortement, je suis pour les empêcher de nuire, parce que pour moi c'est une nuisance que ces commandos font, mais j'ai pas envie de dire que ce sont des fascistes, parce que ces personnes-là simplement appliquent une logique qui est la leur. Je veux dire que quand on pense que tuer un fœtus est un crime, je trouve tout à fait logique. Ça peut dépendre des circonstances, mais dans certaines circonstances, je peux trouver tout à fait logique d'envisager au moins de vouloir empêcher les avortements par la force. Pas forcément avec un sentiment d'hostilité. Bon, quelques mots sur le modèle républicain laïque, parce que vraiment je fais un petit peu trop lentement. Donc, veut imposer des métavérités qui sont censées être des choses que tout le monde doit croire et que si on ne croit pas, on est de mauvaise foi. Cette idée que le racisme ou l'antisémitisme n'est pas une opinion mais est de la mauvaise foi, ça vient, je crois, de... Ça vient de Sartre, en tout cas Sartre l'a beaucoup propagé. C'est un peu paradoxal dans le sens que, à l'origine, je crois que cette idée de mauvaise foi a été beaucoup propulsée par la polémique anti-judaïque des chrétiens, c'est-à-dire que les chrétiens disaient que si les juifs n'acceptent pas la vérité chrétienne, la vérité de la résurrection du Christ, de la divinité du Christ, c'est parce que les juifs sont de mauvaise foi et qu'il était évident, en fonction simplement de l'application de la raison, que enfin, les vérités du christianisme étaient évidentes et que donc les juifs étaient de mauvaise foi du fait de leur refus d'accepter ces vérités évidentes et étaient en définitive diaboliques. Et je suis frappé par le fait que ce même schéma, il est utilisé aujourd'hui à l'encontre de ce qu'on pourrait considérer comme étant le contraire, ce qui est le contraire d'une certaine façon, c'est-à-dire le fascisme et le nazisme, que ce ne sont pas des opinions, ce sont des résultats de mauvaise foi. En dehors de... donc il y a un socle, donc tous les humains sont égaux, les droits de l'homme, chacun est libre de ses opinions, qui fait partie de ce socle, ce qui a comme conséquence... que pas de liberté pour les ennemis de la liberté, ce slogan qui est répété à toutes les sauces de l'extrême gauche à la droite modérée et qui me semble aberrant parce que qui est déjà contradictoire dans ses termes d'une certaine façon, qui amène ce modèle républicain laïque à se comporter en symétrique du fascisme, c'est-à-dire que les ennemis, quand on dit pas de liberté pour les ennemis de la liberté, on est en train de dénoncer une opinion ennemie elle-même de la liberté, et donc de contredire son propre droit à la liberté d'une certaine façon.
On a entendu, il y avait une revue antifasciste qui s'appelait Article 31, parce qu'il y a 30 articles dans la Constitution et qu'il voulait en rajouter un qui était effectivement pas de liberté pour ceux qui ne respectent pas
Et qui se veut le nec plus ultra du radicalisme, d'une certaine façon, et qui, à mon avis, n'est que la radicalisation du point de vue consensuel de l'ensemble de la société, quoi, sur cette question-là. Le fait que les décisions doivent se prendre démocratiquement, à la limite, on a l'impression qu'une fois qu'il y a eu un vote, on n'a pas le droit de penser le contraire de ce que du résultat du vote. On n'a pas le droit de penser que la vérité n'est pas... Enfin, comme si la vérité était constituée par le vote. De la même façon qu'il y a beaucoup d'autres fictions, par exemple, que la vérité serait constituée par le résultat du jugement d'un tribunal, que si un tribunal a déclaré quelqu'un coupable, c'est comme si c'était cette déclaration elle-même qui rendait la personne coupable. On se demande pourquoi le tribunal il jette pas une pièce en l'air et puis une face, parce que à ce moment-là, le tribunal aurait toujours raison, quoi. Donc, voilà, donc le fait de bon, quelques inconvénients par rapport à ce modèle, le fait de ne pas croire en la métavérité, en cette métavérité, donc en ce socle qui est censé être non pas de l'ordre de la vérité, mais d'une vérité supérieure, est immédiatement disqualifié comme étant de mauvaise foi, donc délit d'opinion. Et je pense que les antispécistes, les personnes qui remettent en cause la division fondamentale entre les humains et les non-humains, tombent assez directement là-dedans, c'est-à-dire que nous considérons que, disons que le caractère sacré de la vie humaine n'a rien de spécifique par rapport aux humains. Enfin, je veux dire qu'il y a nécessairement une remise en cause de ce schéma-là, et le résultat des choses, c'est que très facilement, on peut nous accuser d'être contraire à ce modèle républicain. Ça a d'ailleurs été fait. Hein. Je veux dire, il y a un livre entier qui est sorti, Polariès, qui est sur ce thème-là, qui dit comment son titre, c'est les nouveaux terroristes. Saboteurs de l'humanisme, les nouveaux terroristes, c'est à propos des antispécistes, hein, grosso modo. C'est que nous serions des terroristes. C'est assez incroyable de voir que nous sommes déclarés terroristes alors que le mouvement de libération animale au niveau mondial a fait, je crois, le nombre de morts que notre terrorisme a fait, je crois, c'est exactement zéro. Enfin, il y a un cas en Hollande, je crois, qui est bon, mais qui est contestable, quelqu'un. Oui, voilà, Pim Fortuyn qui était descendu, mais je ne sais même pas très très clair. Mais je veux dire, si on compare ça à n'importe quel autre terrorisme dans le monde, je veux dire, on a du chemin à faire pour être des vrais terroristes. Pardon. Oui, qu'on accuse aussi à un certain niveau de terrorisme. Mais bon. Par contre, je crois que des militants pour les animaux qui sont morts, il y en a quelques-uns quand même. Bon, déjà, il y en a quelques-uns. Bon, donc ce pas de liberté pour les ennemis de la liberté, donc qui établit une sorte de symétrie, en fin de compte, entre les idées démocratiques, de liberté, de tolérance et tout ça, et le fascisme de l'autre côté, alors que moi je pense qu'il n'y a pas de symétrie, c'est-à-dire que moi je suis pour la liberté d'opinion et pas pour le fascisme, et que j'ai pas envie de les mettre comme étant simplement deux camps de football, quoi. Parce que finalement, cette phrase-là, elle finit par être dans ce sens-là. Il y a aussi cette déclaration... Je vais jamais me rappeler, c'est la Convention européenne sur les droits de l'homme, je crois. Enfin, elle a une histoire, elle a été d'abord du Conseil de l'Europe, puis ensuite, je crois qu'elle est devenue l'Union européenne. Mais dans le dernier article, grosso modo, dit ça, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, dit aucun des articles de cette présente convention ne sera interprété comme permettant des activités contraires aux articles de cette convention. Ce qui est autoréférentiel. Ce qu'on retrouve là-dedans, c'est constamment la question d'autoréférence. C'est autoréférentiel, c'est-à-dire que, grosso modo, ça veut dire on ne peut pas interpréter les articles qui édictent la liberté d'opinion comme édictant la liberté d'exprimer une opinion contraire à la liberté d'opinion. C'est-à-dire aucun des articles de la présente convention ne peut être interprété comme autorisant des activités contraires à la présente convention, aux libertés, comme voulant restreindre les libertés édictées par la présente convention. Ce dernier article lui-même est en train de restreindre les libertés édictées par la présente convention, donc on ne devrait pas pouvoir l'interpréter dans ce sens-là. Enfin, on a un problème de circularité dans ces énoncés, sachant que la convention en question, elle déclare par exemple des notions du genre la dignité humaine, notion auxquelles je ne crois pas. Clairement, cette convention, elle devrait m'interdire de parler, quoi. Elle devrait interdire que je dise, je ne crois pas à la notion de dignité humaine, ou en tout cas, j'ai envie de pouvoir la critiquer. Donc, ça va jusque-là, effectivement. Enfin, littéralement, à interpréter un certain nombre de lois, l'antispécisme devrait être mis hors la loi en vertu d'articles de conception qui sont a priori censés réprimer le fascisme.
Ben, oui, il y a un article de loi qui
a été le fait
d'attenter à la dignité humaine.
Oui, voilà. Et donc, toute littérature qui critique cette notion est attentatoire à la dignité humaine. Le résultat aussi de ce point de vue des choses, c'est que comme ça met en haut cette métavérité, ce socle républicain, en dessous de ça, toutes les opinions particulières qui sont autorisées par la loi deviennent un peu comme les goûts et les couleurs. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de penser n'importe quoi sur n'importe quoi. Et les vérités d'ordre simple, les vérités normales, ça devient des choses que tout le monde a le droit de penser, mais qui n'a jamais le droit de vouloir imposer aux autres, ou même de vouloir critiquer chez les autres. Si tu es contre la viande, n'en mange pas, mais n'empêche pas les autres, ou même n'essaye pas d'en dissuader les autres. C'est-à-dire n'essaye pas de m'imposer un raisonnement éthique qui voudrait m'en dissuader, quoi. C'est-à-dire, tu as le droit de penser ce que tu veux dans ton coin. Un des résultats de ça, c'est l'incapacité, de ce point de vue-là, à prendre en compte, en particulier, les croyances religieuses. Autant je me sens personnellement très contraire, en particulier, au fondamentalisme religieux, et en particulier au fondamentalisme musulman, et que je pense qu'il est important de le critiquer, autant je pense qu'il y a une injustice, enfin qu'il y a une absence totale de logique dans la manière dont cette question-là est traitée. C'est-à-dire on expulse en France un imam qui a dit que pour lui la loi de Dieu est au-dessus de la loi républicaine. Je pense que n'importe qui prend au sérieux les croyances religieuses ne peut que dire ça. La loi de Dieu est au-dessus des lois, la loi républicaine. De la même façon que moi qui ne crois pas en Dieu, je pense que l'éthique de chaque individu, mon éthique, l'éthique de tout individu est au-dessus de la loi républicaine. Je suis assez attaché au respect de la loi en général. Quand je fais du vélo, je conduis à droite, je m'arrête au feu rouge, j'essaye de respecter la loi dans beaucoup de ses aspects, mais je pense que je la respecte a priori, parce qu'en définitive, enfin, dans le fond, chacun de nous agit en fonction de ce que nous pensons juste. C'est notre propre opinion que nous essayons de faire sur ce qu'il est juste de faire ou non, qui est premier, et si ce que nous pensons juste ou non de faire débouche sur le fait qu'il faut respecter la loi républicaine, ce respect est une conséquence de notre éthique, ce n'est pas un fait premier. Ce point de vue-là, qui va jusqu'à expulser une personne, ou vouloir expulser une personne, parce que je crois que cet imam a fini par ne pas être expulsé. Oui, enfin bon, c'est une longue histoire, mais en tout cas, c'est on voit qu'on met en application cette idée que finalement, on n'a pas le droit de prendre au sérieux ses propres opinions.
Je sais pas, mais là, j'ai du mal là-dessus, parce que je me dis, là, la personne qui pense que la loi de Dieu est au-dessus de la loi républicaine, elle va être là dans son pays.
Les témoins de Jéhovah qui refusent l'armée, par exemple, bon, leur pays c'est la prison.
Et moi j'ai envie d'y aller dans leur pays aussi, de pouvoir dire moi j'y crois pas en Dieu. Oui, mais je veux dire que c'est pas parce que là-bas c'est impossible.
Moi je dis que les personnes que ce genre de phrase, que la loi de Dieu est au-dessus de la loi républicaine, ils ont qu'à aller dans leur état terroriste islamiste.
Oui, parce que c'est la même logique des catholiques.
Qu'est-ce que ça veut dire la loi de Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la charia? Ça veut dire ça, la loi? Mais c'est comme ça que je comprends. Non, mais c'est des grands la loi de Dieu. Non, parce que justement, d'abord la loi.
Je suis d'accord avec Claire.
Non, mais la loi, qu'est-ce que c'est la loi, quoi? La loi chez les islamistes, la loi c'est la charia.
La loi républicaine, c'est le droit de manger des animaux, enfin je sais pas.
Enfin, moi, je suis contre le fait que si quelqu'un pense que Dieu autorise les hommes à battre leurs femmes, je suis contre le fait de leur permettre de battre leurs femmes. Ça, c'est clair. Mais là, il y a un conflit dans le sens que moi, je pense une chose sur le plan éthique. Eux pensent autre chose. Et de la même façon que je parlais de ligoter Dominique, si lui pense que l'île est au sud et que moi, je pense qu'elle est au nord, j'ai envie de les empêcher d'imposer ce qu'ils pensent à ce niveau-là. Mais je ne vais pas les prendre pour des imbéciles ou des salauds pour autant. Je vais essayer de les neutraliser mais ça n'implique ni que j'ai une hostilité envers eux et que je pense qu'ils sont de, que c'est par méchanceté qu'ils pensent ce qu'ils pensent. Ils pensent ce qu'ils pensent pour tout un tas de raisons, et en particulier la logique de leur... Non, je suis pas défini comme ça. Non.
Je vais donner un exemple. Par exemple, en tant que client, et dans ce que c'est relatif un peu, par exemple, le champignon du chirurgien, le cannabis, c'est interdit par la loi républicaine. Moi, je suis un activiste, aujourd'hui, c'est tout. Parce que ça me permet. Ça pourrait arriver que lui, il arrive à me le faire à moi. Je veux dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de solution. Si moi, je suis convaincu que l'île qui va nous sauver est au nord, je ne peux que chercher à agir en fonction de ce que je pense pour nous sauver tous les deux, et lui de même, hein, et que le résultat des courses... Ça sera le plus fort, ou ça sera... Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que, de fait, si je suis convaincu que c'est au nord, je ne peux pas me dire, ah ben démocratiquement, je ne veux pas appliquer le principe, c'est le plus fort qui gagne, donc je vais laisser le bateau aller vers le sud, alors je suis convaincu qu'on va se mourir tous les deux, quoi.
Il y a une autre solution, c'est d'avoir un GPS, c'est peut-être ce qu'apporte la GPS. GPS dans mon bateau.
Mais je pense que ça c'est non mais c'est pas qu'une boutade, enfin là c'est une boutade, mais je pense que dans beaucoup de cas on passe à côté de possibilités de compromis, on passe à côté de possibilités de compromis et de négociations et de solutions gagnant-gagnant parce que on pose le problème comme étant nécessairement un problème, je dirais, ontologique, un problème fondamental, un problème de, il ne faut pas permettre à un imam d'imposer sa loi ou quelque chose comme ça. Un des exemples, c'est l'attitude dans les cantines par rapport au fait de manger de la viande. Il y a eu récemment, à Villefranche-sur-Saône, un maire, je crois que c'était le maire de Villefranche-sur-Saône, qui a déclaré qu'il refusait par principe... que les enfants musulmans dans les écoles, à la cantine, soient servis en mettant de côté le porc. Et qu'il fallait que les enfants musulmans, je crois, soit n'aillent pas à la cantine, soit mangent le porc, parce que, par principe, l'école est un lieu laïque, donc par principe, il faut absolument que les enfants musulmans mangent comme tout le monde et ne manifestent pas leurs différences à travers ça. C'est-à-dire la volonté d'imposition... comme principe premier de cette de ce socle de règles républicaines laïques d'égalité entre guillemets, pour moi c'est pas ça l'égalité, aboutit au fait de refuser une solution de compromis qui en pratique, d'une façon pragmatique, ne fait du mal à personne. Enfin, sans parler des cochons qui sont dans les bouts de porc, mais je veux dire, en mettant ça de côté, si c'était une histoire de carottes, je veux dire, en mettant au niveau des gens qui acceptent de manger les carottes et ceux qui refusent de manger les carottes, bon ben, on permet au premier de ne pas manger les carottes, je veux dire, le grand drame, quoi. Enfin, voilà.
Celui qui mange des carottes, pense peut-être que c'est juste une question de vie et c'est une question de.
Oui.
Donc, il faut juste que tout le monde mange des carottes et celui qui n'en mange pas. pense qu'il serait juste
oui.
que personne n'en mange. Et mon père, ça ne pourrait pas se satisfaire de manger.
Oui, mais dans ce cas-là, il y a peut-être. Oui, oui. Mais dans ce cas-là, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que les gens qui mangent, qui s'en fichent, qui mangent très bien les carottes, ils peuvent aussi dire, bon ben, si on veut manger tous la même chose, si on veut que ça soit plus simple, il n'y a qu'à faire des menus sans carottes. Puis, eux, ils ne sont pas obligés de manger les carottes. Rien ne les oblige à manger les carottes. Et on a l'impression que les actes sont souvent conçus dans cette manière de penser, sont souvent conçus comme des porte-drapeaux. C'est-à-dire, je refuse de ne pas manger les animaux. Je refuse de ne pas manger les carottes, parce que moi, je ne vois pas de raison pour ne pas manger les carottes, donc je dois le manifester en mangeant les carottes, même si j'aime pas les carottes. Mais je me force à manger les carottes parce que je... Ah, c'est-à-dire que, à la limite, cette façon de penser, elle empêche de trouver des solutions de compromis, des solutions de conciliation entre gens de bonne volonté, lui il mange pas les carottes, ben moi je mangerai pas les carottes, et sera. Puis alors, le nombre de fois où je vois des messages sur les listes en disant mais je vais inviter des végétariens à manger, qu'est-ce que je peux faire, je vais leur faire trois bouts de salade dans un coin, on a eu des discussions récemment, mais il leur passe pas par la tête l'idée qu'ils pourraient faire plus de végétariens, quoi. C'est comme si la viande était un os, et à mon avis, c'est pas seulement une question de goût, là c'est une question d'idéologie, que je veux prouver que je ne suis pas végétarien, c'est juste de manger de la viande dans... Enfin bon, je... Il y a toi qui voulais finir, et puis il y a une autre...
Et moi, c'était pour revenir sur l'histoire de l'hostilité.
Oui.
À propos de, par exemple, de la religion en Allemagne, il est bien évident qu'il ne s'agit pas d'une question d'hostilité, d'hostilité aux personnes, aux individus qui prônent une certaine attitude idéologique, etc. Mais qu'on peut condamner, par contre, les conséquences de l'appartenance à certaines idéologies religieuses. Et dans ce cas, je vais vous en parler, parce que dans le cas, par exemple, des extrémismes, en fait, l'islam, c'est la charia avec ses conséquences. Donc, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des allusions, c'est toutes les conséquences sur les personnes autres, humaines, enfants, je ne sais pas quoi, parce qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et tu as dit ce que je voulais dire, parce que souvent, l'attitude, que ce soit le corps, le voile, par les jeunes adolescentes, qui sont en rupture avec leur histoire, pour des raisons X, et qui prônent le voile simplement par identité, pour s'affirmer quelque part, en oubliant ce que ça recouvre, et qu'il y a plein de phénomènes comme ça dans notre société, qui sont que plein de gens affirment quelque chose, que ce soit. C'est surtout systématisé par les extrémistes musulmans, c'est sûr, mais que c'est en fait un faux problème. Et dans ce cas, je te rejoins dans ce que tu dis en disant il faut pouvoir établir une communication et pouvoir démonter tous les rouages préalables à ces attitudes. Et que c'est effectivement fondamental. Il s'avère souvent que c'est difficile parce qu'il y a ce rapport immédiat de fermeture provoqué par les attitudes crispées et par des dogmes. Moi, je déteste les dogmes. Donc, il y a le dogme. Donc, à partir de là, c'est comme quand on parle avec des catholiques. Je suis catholique moi-même, je l'ai été enfin. Eh bien, le mystère de la foi. Et à partir du ministère de la foi, on ne peut plus discuter. C'est tout, le chapitre est fini. Et donc, voilà, c'est tout.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Hein. C'est pas. Enfin, j'essaye de parler un petit peu du cadre. Enfin, c'est de façon un peu abstraite et décharnée ce que je dis les choses. Mais c'est clair que derrière ces choses-là, il y a des enjeux qui sont souvent réels et qui font mal, quoi. Enfin, je veux dire, l'histoire de l'imam qui disait Dieu a dit qu'on peut battre sa femme. Enfin, bon, je schématise, c'est peut-être pas exactement ce qu'il a dit, mais. Grosso modo, c'est ce qu'on lui a reproché. C'est de la douleur, c'est des morts. C'est, et, Mais je pense que le problème aussi, c'est que dans notre société, on peut dire, au lieu de dire l'islam, il y a des problèmes dans la logique de l'islam, il est devenu interdit de critiquer les religions elles-mêmes. Et ça, je pense, à partir d'une réalité qui est les conséquences qu'on a vues dans les années 40 de l'antijudaïsme chrétien. L'antisémitisme a été interdit à partir de ce moment-là, mais la conséquence de ça, c'est qu'au lieu de chercher à comprendre comment l'antijudaïsme chrétien, à partir d'un certain nombre de préceptes qui n'étaient pas de mauvaise volonté au départ, je veux dire que l'histoire du christianisme, c'est un espoir immense d'une vie merveilleuse, de la réconciliation, de tout ça, mais il y a une certaine logique qui, à mon avis, a sécrété un anti-judaïsme qui, à mon avis, serait à critiquer vraiment dans ses fondements. Mais c'est devenu, on n'a pas le droit de critiquer l'anti-judaïsme parce que ce serait critiquer une religion, et que critiquer une religion, c'est justement ce que fait l'anti-judaïsme, et que finalement on décide que les religions, c'est chacun sa religion, c'est une privatisation des croyances religieuses, chacun a sa croyance privée, alors que, je veux dire, c'est faux, je veux dire, et c'est faux en particulier pour le christianisme et pour l'islam, qui sont deux religions qui ont explicitement vocation à convertir la totalité de l'humanité. Ça fait partie de leurs fondements. On ne peut pas leur reprocher, ceux qui sont un petit peu cohérents avec les fondements de leur religion, ils ne sont qu'en train d'essayer d'être cohérents. Et je pense qu'il faut arriver à le dire, ça, il faut arriver à critiquer ça, éventuellement avec ceux d'entre eux qui sont de bonne volonté, parce que quelqu'un va avoir une certaine logique qui lui amène à des conclusions désagréables, tout en étant de bonne volonté, à se rendre compte que Lutz, c'est désagréable comme conclusion, qu'il lui-même, il n'a pas envie d'arriver à cette conclusion-là, à la tolérance qui est, à mon avis, inhérente à ces deux religions-là. Mais, enfin bon, je ne sais pas si c'est très clair, Bon, une des conséquences de ça, c'est aussi la virtualisation, c'est-à-dire que finalement, on considère que tout est construit, en particulier les fondements même de notre société, le pacte républicain laïque, l'égalité humaine. On dit finalement c'est une idée virtuelle, elle n'est même pas inscrite dans la réalité, mais simplement on est obligé d'y croire parce que c'est le fondement de la possibilité d'avoir une paix sociale entre nous. Je pense pas que ça soit, moi je le vois plutôt comme une ligne Maginot que comme une vraie barrière, et on voit actuellement avec les problèmes qu'il y a avec le fondamentalisme religieux. Une dernière chose, c'est que ça autorise seulement les revendications égoïstes. Alors là, je ne vais pas développer parce que je n'arrive pas à le formuler de façon très nette. Mais une illustration, c'est le fait que par rapport au végétarisme, on nous accorde dans cette société le droit de ne pas manger les animaux. Mais le droit de ne pas manger les animaux est un droit extrêmement bizarre qu'on a, parce que nous ne mangeons pas les animaux pour que les animaux ne soient pas tués. Mais nous n'avons aucun droit d'empêcher les animaux d'être tués. Par exemple, quand moi ça m'arrive pour le travail d'aller dans des colloques, à midi on sert on mange collectivement, enfin dans le congrès, il y a la salle où, et moi à chaque fois je déclare avant je suis végétalien, je ne veux pas qu'on me compte parmi les menus viandistes, je veux que non seulement on me fasse mon repas à moi, mais qu'on me décompte du nombre de poulets et de choses. Et chaque fois ça manque pas, en tout cas la dernière fois c'était vraiment ça, c'est que je trouve sur ma table en entrée le homard, tout ça déjà préparé dans l'assiette là où on me dit de m'asseoir, on me dit c'est pas grave, on va vous l'enlever, il ramène ça à la cuisine, il le jette aux ordures et il m'amène le menu végétarien à la place. Conclusion, des animaux ont été tués pour moi. Et je n'ai rien à dire par rapport à ça, parce que mon droit de ne pas manger les animaux, c'est uniquement un droit de ne pas les manger. Mais la raison pour laquelle je ne mange pas les animaux, c'est-à-dire que pour que les animaux ne soient pas tués, n'a aucune reconnaissance dans la société. On m'accorde un droit, mais la manière dont on m'accorde ce droit ne me permet en rien d'obtenir l'effet que je cherche à avoir par ce droit, qui est que les animaux ne soient pas tués. Donc c'est un droit qui est vidé de toute substance, et mon droit de ne pas manger les animaux, on lui reconnaît comme seule force le fait que ça aurait si je disais je n'aime pas le goût de la viande. Ce qui fait que dans un certain nombre de circonstances, par exemple à l'armée, ou dans les prisons, ou dans les collectivités où les gens sont censés mettre de côté les goûts particuliers qu'ils ont, enfin leur goût culinaire, où tout le monde sait qu'on mange des choses qui ne sont pas forcément très bonnes, eh ben, je n'ai aucun droit à demander un menu végétarien. Et d'ailleurs, je crois que dans ces circonstances-là, c'est vraiment, ça dépend de la bonne volonté des personnes en face. Que souvent la réponse est non, on va pas vous faire un menu végétarien, vous mangez ça ou vous mangez rien. Donc c'est un droit faible et qui virtuellement est inexistant dans notre société. Ah, là il y a le QuickTime et un décompresseur TIFF non compressé qui sont requis pour visionner cette image. Donc, vous verrez pas l'image.
Vous êtes d'accord avec ça?
Je voudrais penser que c'est faux, mais je constate que c'est vrai.
C'est quoi
l'image ? Non, l'image, c'est une boîte de conserve. Enfin bon, c'est juste une illustration comme ça. C'est une boîte de conserve avec trois animaux dedans. Et c'est marqué pour chaque... sponsoriser un végétarien. Enfin, c'est marqué en anglais, sponsoriser un végétarien. Pour chaque animal que vous n'aurez pas mangé, nous en mangerons trois. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui explique sur un site internet, pour me venger des végétariens, je vais rendre nul... ce qu'ils font, c'est-à-dire à chaque fois que je vois un végétarien qui m'explique qu'il ne mange pas les animaux, et ben du coup je vais en manger trois fois plus, rien que pour rendre impuissante son intention de ne pas faire tuer les animaux. C'est quelque chose qui a été proposé un petit peu comme une blague comme ça, avec un discours autour sur les végétariens, c'est des vrais fascistes, ils nous emmerdent avec leur en se croyant moralement supérieurs, etc. Et qu'on va se venger comme ça. Et pourtant, ça a eu un grand succès sur Internet. Il y a énormément de références vers cette page-là. Bon, c'est un petit peu quelque chose de virtuel, parce que de toute façon, ils n'ont jamais bouffé trois fois plus de viande qu'ils ont bouffé manger réellement. Enfin, autrement, c'est difficile, parce qu'on mange souvent déjà tellement. Mais ça illustre la vacuité du droit qu'on nous donne, la vacuité au moins potentielle du droit qu'on nous donne d'être végétarien, de ne pas manger les animaux. Bon, ici, j'en arrive à quelque chose du genre un petit peu les solutions, entre guillemets, que je propose. Ce ne sont pas des solutions, mais c'est simplement une attitude qui est celle vers laquelle j'essaye de tendre et que je pense qui est juste. D'abord, bannir l'idée qu'on puisse avoir un méta-cadre, enfin une méta-vérité, une solution cadre qui serait, bon, comme dans le cas du bateau, où Nadine m'a objecté, mais dans ce cas, c'est le droit du plus fort qui gagne. Le problème, c'est que je ne pense pas qu'il puisse y avoir une règle globale et supérieure qui règle ce problème et qui nous dise comment nous devons nous comporter dans ce genre de circonstances. La réalité, c'est que quand il y a des conflits d'opinion, et ben, les conflits d'opinion, quand il n'y a pas d'autres possibilités pratiques pour arriver à un compromis, et ben, vont au conflit physique. Et quand il y a un conflit physique, de fait, c'est le plus fort qui gagne. C'est pas le droit du plus fort en ce sens que ce n'est pas parce que le plus fort gagne que ça valide son opinion, mais de fait, il me semble que ça ne peut pas être autrement. Alors, les solutions que je propose là, c'est des solutions que je pense vraies. Je ne peux pas dire que tout le monde devrait le penser vrai, et je ne le propose pas comme cadre neutre que tout le monde pourrait accepter. Par exemple, l'imam de Vénissieux dont on parlait ne pourrait pas l'accepter. Beaucoup d'entre vous ne pouvaient pas l'accepter. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui, de toute évidence, qui est self-evident, comme je reprenais tout à l'heure l'expression qui est dans la Constitution américaine. Je crois que nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes naissent libres et égaux. À l'époque, il y en avait quelques-uns qui étaient esclaves. Bon, vraiment, ce que je dis là n'est pas self-evident, n'est pas évident, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité que pour chacun d'essayer de proposer ses propres solutions. D'autre part, je pense que ce qui résume ça, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire, je pense que, sachant que les actes ne sont pas en général des porte-drapeaux des idées, le but n'est pas d'écraser les idées des autres, de les faire taire, de faire taire le fascisme, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire taire le fascisme ou le nazisme ou le spécisme. Ce qui m'intéresse, c'est que les animaux ne soient pas mangés, que les gens ne soient pas... enfin, que la liberté soit la plus grande possible pour tout le monde, etc. Donc, première chose, défendre chaque idée sur la base de ses propres mérites. Je pense qu'il y a un grand déficit de ça dans les choses, dans la société où on vit. C'est-à-dire que parce qu'on a sacralisé la démocratie, les droits de l'homme, etc., on les a sacralisés, on ne les défend plus sur la base de leurs propres mérites. Je pense que l'égalité, et par exemple l'égalité humaine, comme cas particulier de l'égalité animale, c'est quelque chose qui se défend sur la base de ses propres mérites. C'est-à-dire qu'il y a une argumentation qui se tient et qui est convaincante pour dire que la souffrance de tout humain a autant d'importance, que c'est pas parce qu'on est blanc ou noir que ça change quelque chose. C'est-à-dire que cela, ça peut être défendu. Ça peut être défendu à condition d'essayer de réfléchir à la formulation de ce qu'on dit. Il y a une pauvreté de ce côté-là aussi. C'est-à-dire qu'on dit tous les hommes naissent libres et égaux. Enfin, je suis désolé, il y a des grands, des petits, il y a des forts, des pas forts, il y a des gens qui naissent éclopés, etc. L'égalité n'est pas une égalité factuelle. Mais cet énoncé-là, cette réflexion sur le sens du mot égalité, elle-même, elle est bannie parce qu'on propose l'égalité comme étant quelque chose auquel on doit croire comme une prescription morale de croire à cela, au lieu de le voir comme étant une vérité qui se défend avec des arguments et par conséquent qui se défend contre les gens qui pensent le contraire, donc auxquels il faut permettre de s'exprimer aussi. Ces valeurs donc ne sont pas des valeurs virtuelles, ce sont des valeurs réelles, des valeurs du monde, des valeurs, je dirais, absolues, dans le sens que ce sont des choses qui ne sont pas chacun sa vérité, mais où des personnes différentes simplement peuvent avoir des opinions différentes sur ces vérités. Ça implique aussi de relativiser un petit peu les différents camps. Il y a le camp, la gauche et la droite. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient presque caricatural quand on regarde sur Internet, par exemple, qu'on compare les discours d'extrême gauche et d'extrême droite. Je trouve que ça se ressemble de plus en plus. Les thématiques reviennent de plus en plus. Et malheureusement, je dirais que c'est plutôt l'extrême droite qui ressemble à l'extrême gauche, sauf dans le look. C'est l'extrême gauche qui ressemble à l'extrême droite. C'est-à-dire que la gauche a pris le discours de la droite, a pris le style de phrase de la droite, mais en même temps la droite a pris un peu le look de la gauche, un petit peu par le côté radical, etc. Enfin, ça c'est pas forcément un phénomène nouveau non plus. Et je pense qu'au lieu d'avoir des camps comme ça, je pense que les idées qui sont justes et dont beaucoup sont des idées de gauche, je pense qu'elles doivent être chacune défendues sur la base de leur propre mérite et non pas comme étant simplement une espèce de paquet cadeau qui s'appellerait la gauche et qui ou l'égalité républicaine ou des choses comme ça. Deuxième chose, respecter l'adversaire, c'est un peu ce que je disais par rapport aux anti-avortements ou aux, ça peut être ou aux fascistes en général ou à l'imam de Vénitieux, ça peut être des adversaires dans le sens qu'il y a un conflit de fait, c'est-à-dire que moi je cherche à faire que l'avortement soit libre, et des gens qui cherchent le contraire, et je constate, et je considère que ce n'est pas des imbéciles pour autant, c'est pas des gens, ils ne sont pas diaboliques, ils ont des logiques. Par exemple, je suis contre l'Inquisition, mais je constate que l'Inquisition a été établie par des gens qui étaient de bonne volonté. Le but était de sauver des âmes du feu éternel de l'enfer. Bon, ben, si on brûlait 2-3 personnes pour faire ça, ben, je veux dire, ça se valait dans un calcul utilitariste, d'une certaine façon. Ce sont des logiques que ces personnes ont, que j'ai envie de démonter, plutôt que de dire que ces personnes-là sont diaboliques, partent d'une mauvaise... Par conséquent, une autre chose, c'est que la négociation avec l'adversaire ne nous salit pas. Souvent, j'entends dire « pas de compromis ». C'est un slogan, à mon avis, extrêmement creux. Il ne faut pas négocier avec le diable. Négocier avec le diable, il faut prendre une longue cuillère. À mon avis, je pense qu'il faut négocier avec les personnes d'en face, qu'on peut souvent arriver à des solutions de compromis, que le jeu n'est pas à somme nulle, ça c'est une formulation un petit peu en termes de théorie des jeux, c'est-à-dire n'est pas à somme nulle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... Enfin, un jeu à somme nulle, c'est un jeu ou une interaction, disons, où chaque fois que quelqu'un gagne, forcément la personne en face perd, ou réciproquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité, c'est par exemple un jeu de poker, bon, ben, le total de l'argent qui est en jeu, c'est un total fixe. Donc si une personne gagne au poker, l'autre va perdre, et réciproquement, les deux ne peuvent pas gagner. Mais par contre, dans la vie réelle, il y a souvent des solutions gagnant-gagnant, Et je pense que souvent, il est important de voir que ces solutions gagnant-gagnant peuvent exister, même si ça n'implique pas, même si c'est des compromis et qui n'implique pas du tout le fait de perdre, enfin de renier nos opinions. Par exemple, PETA aux États-Unis qui négocie pour que les, je crois, 5 milliards de poulets qu'ils ont tués chaque année soient tués d'une manière moins cruelle. Il y a des gens qui disent PETA est en train de se compromettre, PETA est en train de négocier avec l'ennemi, PETA est en train d'abandonner son objectif. Je pense que PETA n'est pas en train d'abandonner son objectif et affiche bien clair son objectif, qui est que ces 5 milliards de poulets ne soient plus tués chaque année, qu'il y en ait zéro, mais que PETA a tout à fait raison en même temps de négocier pour que la mort de ces 5 milliards de poulets soit moins cruelle. Oui, oui, ça c'est une question, ça c'est une autre question qui est dans les motivations des gens qui critiquent PETA par rapport à ça, mais on entend quand même souvent cette motivation qui est simplement ne pas se salir en serrant la main du diable, quoi, en serrant la main de McDonald's ou autre chose. Autre point, aucune idée des mauvaises en soi, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai pas du tout envie d'interdire aux gens de penser que l'avortement est un crime. J'ai envie d'argumenter avec ces personnes pour les convaincre que l'avortement n'est pas un crime. Mais j'ai pas envie. Le fait que j'ai envie de les empêcher d'agir n'implique pas que je veuille leur interdire de penser ce qu'ils pensent, quoi. Bon, nos actes ne sont pas les porte-drapeaux de nos idées, ou ne le sont pas systématiquement. Je ne suis pas contre le fait, par exemple, de dire je refuse de manger de la viande, ça a une valeur symbolique aussi. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut que ça soit explicite, et ce n'est pas systématiquement que mes actes sont les porte-drapeaux de mes idées, mes actes valent en soi. Il faut redonner cette possibilité pour les actes d'exister indépendamment des idées, indépendamment du fait d'être du symbolisme que ces actes peuvent avoir. Oui. Oui.
Je voudrais dire que je suis contre l'avortement et pour la contraception. Parce que la plupart du temps, quand on est pour ou contre l'avortement, on s'occupe du fœtus et on ne s'occupe absolument pas de la femme qui subit l'avortement. Moi, personnellement, je n'ai jamais été enceinte, je n'ai subi l'avortement, mais j'ai vécu des amis qui ont subi des avortements et c'est quelque chose qui est très traumatisant. Donc, enfin, je ne sais pas tout. Mais ce que j'ai vécu, je parle de mon expérience. Et donc, je trouve que c'est la contraception qui peut développer. Et comme ça, il n'y a plus, tu disais gagnant-gagnant. Si on développe la contraception, il n'y a plus l'histoire de pour ou contre l'avortement. Oui, non, mais je sais que ce n'est pas si simple. Je sais que ce n'est pas si simple, mais voilà. C'est parce que non, quoi. Parce que quand on parle de l'avortement, on ne parle jamais du problème de la femme qui subit cet avortement. Voilà,
c'est marqué là-bas, aucune idée des mauvaises en soi. Aucune idée.
Moi, je dirais surtout que l'avortement, moi je le rejoins totalement. Oui. Moi, moi, ça me fait penser à ce que Sarah disait au tout début. Oui. Elle disait, quand Alain lui disait ne pas manger de la viande, c'est le problème des antispécistes, oui. Et qu'elle lui a dit non, c'est le problème des animaux, et ben, moi je dirais, au risque d'avoir des huées, que l'avortement c'est le problème du fœtus. Et que moi, je trouve, pour moi, un fœtus c'est quand même un petit être vivant en construction, oui. Et que moi ça me pose problème, avant de penser à la femme, moi je pense au fœtus. Oui. Voilà.
Bien sûr,
mais pour ça que moi je suis pour aller devant la contraception. Enfin, je absolument.
Mais tu sais,
non, j'ai une question. Oui, c'est pour moi la contraception.
Sauf que je crois que plus évoluer son fœtus mentalement, et là je vois pas comment on peut le contredire.
Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire, moi ce que je pense, c'est que je suis contre l'avortement parce que c'est une chose qui pour moi est terrible. Sauf que on ne peut pas interdire l'avortement parce que si ça se fait, ça se fait dans des conditions affreuses, donc on ne peut pas l'interdire.
Voilà, c'est dans ce sens-là que
ce qu'on peut faire, c'est si on avait de la contraception fiable,
voilà.
Voilà. Tout le 19e est illustré par des conditions de femmes, Balzac, Brecht, etc., qui sont condamnées à mort parce qu'elles ont avorté et avorté dans quelles conditions humaines, sociales, physiques et tout ça. Voilà.
Moi, je suis tout à fait pour la contraception comme solution.
Oui, tiens.
Solution gagnant-gagnant. Enfin, pas parce que je pense que l'avortement serait un drame en soi, mais parce que je constate qu'il y a des gens qui le pensent.
C'est un drame. Quand il n'y a pas d'autre chose à faire.
Enfin, oui, en fait, c'est un débat. Mais... Bon, mais j'ai presque terminé. Simplement, le truc que je dis en bas sur l'expression des idées. Enfin, moi, je suis pour la liberté d'expression de toutes les idées, sauf. En fonction non pas de l'idée elle-même, mais en fonction des conséquences pratiques qu'elles peuvent avoir. C'est-à-dire, par exemple, la radio d'Émile Collines, c'est une radio qui. Je vais peut-être dire des bêtises, Yves, tu me corrigeras. C'est au Rwanda, donc qui était celle qui appelait au génocide au Rwanda, qui a déclenché, qui a servi à déclencher le génocide des Tutsis par les Hutus, par une partie des Hutus. Donc c'était, je pense qu'il aurait été tout à fait juste d'empêcher cette radio de nuire en intervenant à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne suis pas contre, je suis pas pour le droit de toute expression en tout cas, mais pour moi c'est une question pragmatique et que je ne pense pas qu'il y ait d'opinions qui en soi doivent être interdites. Oui, Luc.
Oui, c'est un gros problème avec. Moi je partage l'idée que. L'expression des idées, enfin, moi je pense qu'il doit y avoir une vieille limitation d'expression des idées pratiques et définies par la société, par le fait, machin, tout ça, ce que je veux. Et la question de nécessité pratique, c'est de toute façon, c'est comment on les définit, c'est quoi la limite, c'est toujours pareil quoi. À certains moments, c'est ça. Moi, autant je pense pas qu'il faille relayer l'imam dans son pays parce que je suis pas bien sur ses structures, enfin, regarder le cas concret, mais autant à certains moments lui dire ça dans une société c'est inacceptable de tenir ce propos, je pense pas que ça soit quelque chose qu'il faut exclure.
Pourquoi?
Ben, par exemple, quand tu dis Radio d'Émile Collin, eux ce qu'ils disaient c'est allez tuer votre voisin, machin, c'est bien, après tout, si tu donnes une liberté d'État, ils peuvent le dire. Mais c'est pas que des nécessités pratiques, elles peuvent s'appliquer au fait que c'est pareil, l'imam il dit aux hommes qui sont là dans sa mosquée, allez-y, vous pouvez taper vos femmes. Moi je trouve qu'il n'y a pas une équivalence de conséquences, mais une équivalence de valeur. Quoi. Entre le fait que dans un état, dans un contexte de guerre civile, on tue son voisin, ou que dans un contexte de paix sociale, on tape sa femme, il y a une équivalence de droit que s'octroie quelqu'un sur l'autre.
Est-ce que en expulsant l'imam de Vinicieux, le but était d'empêcher que les hommes battent leurs femmes?
Je suis pas d'accord qu'il faille l'expulser, mais il faut trouver un moyen intelligent.
Ou en le réduisant au silence. Est-ce que le but était d'empêcher que les hommes battent leurs femmes, ou est-ce que le but était d'empêcher une parole sacrilège? Moi, j'ai plus le sentiment que c'était d'empêcher une parole sacrilège. Et j'ai le sentiment aussi que l'interdiction qu'on fait sur l'expression des idées racistes, le but n'est pas d'empêcher la résurgence du racisme. Pour moi, le but, il est de maintenir une image, enfin, d'interdire l'expression d'une parole sacrilège. Pour moi, je pense vraiment que c'est une ligne Maginot. Enfin, moi, j'ai certaines opinions assez précises, enfin, assez précises. En tout cas, qui ne sont pas partagés par tout le monde sur le conflit israélo-palestinien, et que j'ai eu le sentiment qu'on a eu une énorme résurgence de l'antisémitisme à partir de cette deuxième intifada qui s'est exprimée dans la société, mais alors vraiment, à un certain moment, j'avais l'impression que c'était à couper au couteau, et que tout ça, après 40 ans, ou en tout cas depuis les années 60, où l'antisémitisme était interdit d'expression. Quelle était la valeur de cette interdiction d'expression de l'antisémitisme si c'était pour aboutir à ça, quoi.
Non, mais c'est... La grande différence, c'est que je ne vais pas aller condamner le voisin qui est un qui a fait du commerce. La différence, c'est que lui, il n'a pas un impact moral sur des milliers de personnes qui l'écoutent. C'est quand même. Il y a des.
Mais la problématique, dans ce cas-là, elle est effectivement pragmatique.
C'est un peu d'Émile Collin, c'est. Le mec, c'est tout le monde qui n'écoute pas quand c'est minable, c'est il y a des gens, il leur dirait d'aller te tuer. Il y a une partie des gens, peut-être une frange, peut-être un sur mille, qui il arriverait et pas.
Non mais bon, tuer, oui, par rapport à ça, j'ai deux choses.
Est-ce que là, dit, donc il a un impact différent. Et je pense que la liberté d'expression, on la contrôle d'autant plus qu'on a un impact.
Donc, bon, d'abord,
des choses de la part des politiques, ont des responsabilités qu'on ne trouve pas forcément choquantes, ou qu'on trouve moins choquantes, ou qu'on réprime pas chez quelqu'un d'autre.
Bon, c'est vrai que je vois pas de moyen pour dire qu'il y a une frontière précise entre les choses que je serais d'accord pour interdire et les choses que je serais pas d'accord pour interdire. La radio 10 000 collines, je pense qu'il aurait fallu l'interdire. Le Pen, quand il parle à la radio, je suis contre le fait de l'interdire. Ouais. Mais il peut y avoir des cas intermédiaires où je sais pas. Mais de la même façon que quand on dit pas de liberté pour les ennemis de la liberté ou on n'a pas le droit d'exprimer des idées racistes ou des choses comme ça, là non plus la frontière elle est pas du tout claire. Je veux dire, tu ne sais pas plus que.
Moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis la parole sacrilège. Est-ce qu'on a voulu faire une parole sacrilège? Ou la deuxième solution, c'était.
Ou obtenir en pratique combattre l'antisémitisme.
Mais qu'on a. Parce que nos démocraties sont très timides et qu'elles n'osent pas intervenir directement contre la religion en question qui est l'islam. Donc, elles disent il ne faut pas dire ça. Mais c'est pas une parole sacrilège. Derrière ça, les démocraties, elles veulent dire c'est dangereux. C'est dangereux qu'un imam se dise la loi de la religion est au-dessus de la républicaine. Parce que derrière les femmes battues, il y a les mécréants qui sont les juifs, les chrétiens et tout ça. Et qu'on peut assassiner gaiement si on va plus loin.
Mais je suis tout à fait conscient que c'est dangereux. Qu'on est dans une situation dangereuse. Mais que cette situation dangereuse, j'ai envie d'ouvrir la plaie et de regarder dedans, quoi. Et pas de refermer la plaie et de laisser les verres grouiller à l'intérieur. Enfin, moi, c'est. Bon. Et aussi, par rapport. Il y a souvent un critère qui est dit, qui est. Les idées peuvent tuer, donc il est juste d'interdire certaines idées. Mais le problème, c'est que les idées qui peuvent tuer, je veux dire, il y en a une quantité. Quelqu'un qui dit, moi, je suis contre le port de la ceinture de sécurité, c'est une idée qui peut tuer. Ou moi, je suis pour que la limitation de vitesse en ville soit de 60 à l'heure au lieu de 50 à l'heure. C'est une idée qui peut tuer. Quelqu'un vient et dit, moi je suis pour que ce soit 40 à l'heure au lieu de 50 à l'heure. Quelqu'un lui dit, non, moi je suis pour le maintien à 50 à l'heure. Allez, t'as pas le droit de t'exprimer parce qu'à 50 à l'heure aussi ça peut tuer. Enfin, je veux dire que si on interdit les idées qui peuvent tuer, il faut interdire les gens qui sont pour la pose des ascenseurs, hein, parce que les ascenseurs aussi peuvent tuer.
Je pense que c'est fou et qu'il faut savoir au lieu de cracher toujours sur une même société et même façon de fonctionner notre État, et en prenant conscience de la difficulté. De poser les limites, de la difficulté entre nous qui avons quand même peut-être un dénominateur commun d'idées vachement plus précis que si on prend ensemble la société, on n'arrive déjà pas à tomber d'accord sur ce sujet-là. Et donc il faut avoir un peu d'unité par rapport à ceux qui ont défini les limites d'aujourd'hui et juste aller doucement les faire évoluer vers ce qui nous semble plus logique. Mais
je pense pas que.
On est obligé de constater qu'il y a besoin de limites à certains moments sur l'expression. Et on est incapable, là, de vraiment définir où. C'est pas simple. C'est pas une question.
Oui, mais disons que mon but par rapport à cet exposé à part.
Par rapport à la critique de la démocratie. C'est là aussi.
Non, mais je pense qu'on ne peut pas non plus. En faire l'économie, dans le sens que par exemple, si on accepte que le racisme soit interdit, si on le justifie, bon, on peut l'accepter en se disant pour des raisons pragmatiques, mais si on le justifie parce qu'on dit, fondamentalement ce sont des idées tellement mauvaises ou tellement. Ben, dans ce cas-là, on devrait dire pareil pour le spécisme. Je veux dire que moi, je peux pas dire Le Pen est un salaud parce qu'il a des idées racistes et tout ça. Et je ne peux pas en discuter avec mon voisin qui est de gauche et qui mange des animaux. Je veux dire, j'ai un problème là, quoi. C'est, et j'ai pas envie, enfin, j'ai envie de pouvoir dire qu'il y a une certaine conception de la démocratie, de la société, qu'effectivement, je remets en cause, et que je la remets en cause pas pour revenir à un état où les gens ils ont plus la liberté d'expression, où les gens ils peuvent s'entretuer les uns les autres, etc. Mais pour justement arriver à maintenir ce qui est, à mon avis, positif. Encore, c'est à discuter ce qui est positif cette conception de la démocratie. Par exemple, la démocratie, pour moi, la démocratie, elle devrait être considérée non pas comme une valeur sacrée, mais simplement comme le meilleur moyen de maintenir la paix, c'est-à-dire de ne pas... il vaut mieux voter que de taper dessus avec des gourdins, point.
Comme un moyen.
Comme un moyen, mais le meilleur moyen dans beaucoup de cas, mais un moyen de maintenir la paix pragmatique et entre gens qui n'ont pas envie de verser du sang pour rien. Pour le dernier transparent, hein, vous voyez, il y a la fin après, là. Bon. Donc, aussi, c'est qu'à partir du moment où on accepte de ne pas diaboliser les adversaires, on se rend compte souvent qu'on peut s'appuyer sur les positions même des adversaires. Les positions de nos adversaires sont souvent autodissolvantes. C'est-à-dire, par exemple, les gens sont... Je prends les cas encore d'intolérance religieuse. Je pense qu'elles proviennent souvent d'une bonne volonté à la base. Je pense que les positions derrière les positions républicaines, laïques, il y a une volonté d'égalité, il y a une volonté de considérer que les souffrances de chacun ont la même importance, et que ça, c'est en contradiction même avec la formulation qu'ils en donnent. Donc je pense que souvent, en comprenant et en explicitant les positions en face, on peut avancer, on peut arriver à avancer vers des solutions intermédiaires, des solutions gagnant-gagnant, qui ne nient pas non plus la personne dans son propre être, dans sa propre personne, mais qui permettent de... À la limite, presque souvent, enfin, je parle de façon un peu idyllique, hein, mais parfois qui permettent aux autres aussi de réaliser les choses qu'ils considèrent comme les plus fondamentales pour elles, quoi. Et aussi là-dedans, évidemment, que nous-mêmes, nous avons nos propres contradictions, et que face dans la confrontation avec les personnes en face, ça peut aussi nous permettre d'avancer vers l'expression réelle de ce que nous voulons, qui n'est pas forcément systématiquement en antagonisme avec les personnes en face. Voilà. Bon, désolé si ça a paru un peu à la fois décousu et abstrait, mais j'ai pas réussi à le faire.
J'ai une petite question à te poser, c'est pas du tout l'organe de ce que tu as dit, c'est une question que je vais demander. C'est sur les militants qui sont morts.
Il y a Darion au Royaume-Uni, il y a oui, les membres de la France qui ont protesté contre le non-respect des promesses de Tony Blair par rapport à l'expérimentation animale.
Il y a aussi l'Afrique qui a été écrasée par le camion à
l'époque.
Quand on faisait beaucoup de protestations contre l'exploitation des veaux, parce que les Anglais ne mangent pas les veaux, et donc ils les exportent en Europe. Et donc, il y a des militants qui étaient devant le camion. Le camion a écrasé une jeune femme il y a 10 ans.
Il y a eu des morts dans les campagnes anti-chasse en Angleterre. Bon, il y a.
Sur les tours de parole, on a démarré le débat là.
Oui, oui,
ouais.
Est-ce qu'on fait une pause ou on démarre le débat? Débat.
Oui, oui.
C'est
bien commencé.
C'était le début de la fin.
Merci.
Oui, il a dit le plus fort.
Moi, je préfère faire une pause.
Oui, de combien de temps? Il y a Manu qui préfère faire une pause de...
C'est son opinion. De la respectons.
5 minutes.
Ah, ben,
juste de l'heure de l'heure. As-tu dit en cette famille? Ah, maintenant, ça fait longtemps.
On n'a pas réussi. Je reste là.
Oui. Attends, Antoine, pour... je peux débrancher simplement.
J'arrête.
Oui, oui.
Ah mais faut pas le ah oui d'accord oui.
Non non, oui, pas mais je
oui oui le secteur on le laisse. On laisse le secteur.
Parce qu'il y a une amie qui va nous aider à connecter le VHS.
Ah très bien, d'accord. Ouais. Donc, oui, oui, ce soir. Hein.
Donc pendant le débat, on va se permettre de.
Le test. Voilà. C'est un autre VHS ou c'est celui-là? Avec celui-là
ou... VHS, on va essayer.
Avec celui-là, oui c'est ça, oui. Oui, oui.
Non, c'est pas pour les animaux, 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 c'est